Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Toujours en édition estivale pour tout l'été avec Alain McKenna. Salut Alain!
Salut Benoît!
Alors, cette semaine, tiens, on va décrocher un peu de l'automobile. Mais vous allez voir, on n'est pas si loin que ça. Les gens qui connaissent bien la région de Valleyfield, c'est mon chez-moi.
Oui, on va sur l'eau.
Ben
oui.
On va sur l'eau là-bas. Mm-hmm. 83e régate de Valleyfield, ça c'est en fin de semaine. Donc, je vais aller faire un tour.
Parce une ça, tradition ça fait, pour bien des gens.
Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de régate là, avec la pandémie. Bon, puis beaucoup de coureurs viennent des États-Unis traverser les lignes. C'était immensément compliqué, surtout quand tu as un équipage, des bateaux, bon et tout et tout.
Ouais.
Et là, cette année, on renoue avec la tradition. On va avoir Gaston Morand. Gaston qui est responsable des communications qui est impliqué aux régates de Valleyfield depuis waf, je le dirai pas parce que parce qu'il va dire hey, on dit pas ça mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors on va parler à Gaston, parler des régates, du retour des programmes, qu'est-ce qu'on a, puis ça fait déjà un bout de temps parce que maintenant on dépasse largement la fin de semaine de course, il y a des spectacles, des levées de fonds qui se fait là la semaine avant les régates. Donc on est déjà dans l'ambiance depuis des quelques jours. On va parler de ça. SR Routier, tu nous présentes quoi, mon cher Alain, ce matin?
Ben, je pense que je t'ai volé ton sujet. J'avais la Toyota Venza que, dont
oui.
je voulais parler. Je
ne sais
pas si c'est ça que tu as gardé en tête.
Je t'épaulerai parce que j'avais, moi, cette semaine, un Subaru WRX.
Ah.
Je trouvais intéressant de parler du modèle parce que moi, je suis allé au premier lancement, le lancement de la WRX, la première
WRX. Ah oui, on parle
WRX.
De la première génération. Là. Ah oui,
oh, okay. il y a 20 ans là, maintenant, ou à peu près.
Les régates commençaient dans ce temps-là.
Oui, c'est ça. Je veux dire, si Denis Duquette est cool, il est au lancement du modèle T.
Ouais.
Mais on recule pas loin comme ça. Mais je l'avais à l'essai cette semaine, puis j'ai trouvé ça... Il y a eu un petit côté nostalgique dans tout ça. Je vais vous parler de ça tantôt, donc ça sera mon essai. Mais effectivement, j'ai eu la Venza la semaine dernière, donc je pourrais appuyer tes dires. Ah tiens, nouvelle, qu'est-ce qu'on a en actu cette semaine, mon cher Alain?
Ben écoute, je sais pas si c'est une actu tellement qu'une pré-actu, ou je sais pas comment dire ça, mais Cadillac, okay. Évidemment qu'on connaît, pas besoin de présenter, a présenté de son côté les premières esquisses de ce qui s'appelle la Celestiq, là, qui va être la grosse berline électrique.
Oui.
Qui, parce que c'est facile de faire la comparaison, va probablement se positionner contre la Tesla Model S, j'imagine. Là.
Ça va même être au-dessus de ça. Là. On parle d'un prix entre 250 et 300 000 en ce moment.
La Plaid, en tout cas, mais effectivement.
Mais
c'est
la Plaid au bouchon, on parle de
ça,
200 000
ouais.
là, à peu près. Là.
Quoi, rendu là, tant qu'à moi, c'est...
Ouais, rendu là,
j'aurais été de compter il y a quelques centaines de milliers de dollars, mais bon. Donc, le groupe GM l'a présenté, cette grande et luxueuse berline, toute électrique, comme vous l'avez compris, là, qui va s'ajouter au catalogue de la marque d'ici la fin 2023, donc d'ici la fin de l'année prochaine. La Celestiq sera officiellement dévoilée plus tard cette semaine, soit le 22 juillet.
22, ouais.
Ouais, mais comme moi je tombe en vacances cette journée-là, ben GM, qui sont vraiment très très cool, ont décidé de publier quelques images accrocheuses un peu plus tôt que prévu, pour que je puisse vous en parler, n'est-ce pas?
Hey, moi j'ai eu la vraie photo, mais je peux pas en parler.
OK, on le dira pas.
OK.
mais disons que... Parce
pour l'annuel.
Parce qu'on a vu des
mais
photos...
sous embargo.
Ah, voilà. Ouais. Ben nous, on a eu des morceaux de photos sur le web, en tout cas. On a vu le devant, le derrière, le côté. Finalement, si on, dans notre tête, on a un petit peu de traitement photo, là, on peut photoshopper ça de façon intellectuelle et ça se fait. Wow, que j'avais hâte de finir cette phrase-là. Au minimum, les designers de Cadillac ont décidé de pas trop miser sur la mode rétro, là, parce que ça aurait été facile avec la Celestiq, connaissant l'histoire de Cadillac, n'est-ce pas? Mais le véhicule, donc, prend la forme d'une familiale avec un long haillon à l'arrière qui a rien à voir avec les longs capots des coffres des Cadillac des années 60.
C'est vrai.
À l'avant, c'est au contraire très carré. La calandre est très verticale, pour pas dire carrément comme un mur d'escalade. Les porte-à-faux, là, dépassent à peine des roues avant. Les proportions de la voiture, là, devraient être assez spéciales, merci. On a pris l'habitude ces dernières années de voir beaucoup de véhicules avec un habitacle très reculé, un très long capot, très court coffre. Et là, ce que Cadillac semble vouloir présenter, c'est complètement l'inverse. Ça met en relief, en fait, d'une certaine façon, là, la souplesse dans le design qu'on peut faire avec les plateformes électriques, comme celle, évidemment, Ultium, là, qu'on connaît, de General Motors. C'est d'ailleurs la plateforme qui va être utilisée sous oui. la carrosserie de la Celestiq, disons-le comme ça. Parce qu'évidemment, tout se trouve sur le sol. Il y a un moteur, les moteurs vont dans les roues, peu importe, là, mais batterie, tout le reste. C'est assez compact, donc il y a beaucoup d'espace
oui,
pour s'amuser avec
la plateforme Ultium est modulable, ben on peut mettre le nombre de batteries qu'on veut.
En
on
plus,
peut
voilà.
mettre 12 batteries, 18 batteries, 24 batteries, comme dans le Hummer, où je pense qu'on peut aller aussi bas que, je pense, c'est 6 ou 8 batteries, dépendamment des modèles, plus, effectivement.
Ouais. Évidemment, reste à voir tout ça. Ça, c'est les détails qu'on connaît pas. Je sais pas si tu as eu droit au scoop, Benoît. Moi, je l'ai pas eu.
J'ai tout eu, mais je peux pas en parler.
OK, bon, ben, alors, en tout cas, le sait, mais on vous le dira pas. C'est ça c'est qu'on ça. Est en train de... Mais effectivement, on pourra en parler à partir du 22 juillet, là. De toute façon aussi, parce que le véhicule va être produit seulement dans un an et demi, on ne sait pas
évidemment,
encore la forme
dans l'annuel
finale.
De l'automobile, je me fais une plug, mais on va tout avoir dans l'annuel. J'ai eu l'information plus tôt pour le livre.
Ah, voilà.
Alors, c'est pour ça que je le sais en ce moment, mais que je ne peux rien dire avant le 22.
Mais tu fais bien de l'annoncer, parce qu'effectivement, c'est un véhicule qui, à mon avis, va marquer, parce qu'on sait que GM a un tournant assez ambitieux, comme tous les autres constructeurs, en fait, là, mais est un de ceux qui ont bien amorcé le
En fait, moi, je pense que Cadillac s'est repris dans l'électrique où on a pris tellement de temps à réagir dans l'essence. Rappelle-toi Arts and Design qu'il y avait eu, je pense, en 2000.
Oui.
Je me rappelle au Salon de Détroit, il avait fait un plat avec ça. Arts and Science. Okay. Puis 20 ans plus tard, on est encore un peu à se chercher.
Mm-hmm.
Mais je pense que là, on a sauté très tôt dans le train électrique. Et Cadillac, franchement, ce qu'on a présenté, moi, je suis allé au lancement du Lyriq.
C'est ça, exact.
Et qui est un modèle... Moi, écoute, à 70 000 $ canadiens et aux États-Unis, c'est rare qu'on se fait arrêter dans la rue, puis les gens, puis quand tu leur disais le prix, les gens, parce que 60 000 aux États-Unis, évidemment, je dis aux gens, c'est 60. Il y a une madame qui avait un Mustang Mach-E qui a dit, je pense que je vais retourner le mien tout de suite.
Wow.
Je vais me commander ça, tu sais, puis la madame avait l'air absolument sérieuse, mais elle n'en revenait pas qu'elle avait payé son Mach-E plus cher que ce qu'on avait entre les mains.
Ben encore là, quoi que là, le Lyriq, c'est quand même, ils font bien parce qu'ils ont, ils ont pas une tonne de variants, là. Mais
non,
le Mach-E, c'est parce que c'est les plus chers qui ont été vendus en premier aussi.
Voilà, exactement. Ouais. Et c'est la, malheureusement, mais c'est la tendance qu'on a vue. Tu sais, Tesla fait la même chose. Les modèles, qu'on nous promettait à sous les 40 000 $ de Tesla, là, on les a jamais vus, là.
C'est en principe.
C'est en principe.
C'est un peu fâchant.
Tu sais, t'achetais un modèle 3 à 75 000, là. C'est ça qui arrivait. C'était ça, la réalité. Puis je trouve ça triste parce que tu te mets à l'écart d'une partie de la population qui aurait peut-être été prête à payer 40, mais qui ne payera pas 75. Là.
Non,
on passe presque du simple au double. À un moment donné, tu dis, prenons-nous pas pour des valises non plus. Là.
Non.
Deuxième nouvelle.
Ouais, ben on a vu, parlant d'images qui circulent, les premières images qui celles-là ne seront pas encore officielles, mais du Porsche Macan EV 2024 qui circule sur le web, vous l'aurez compris.
Oui, ben en fait, ceux que moi j'ai vus sont pas encore les modèles. Ben, en fait, ils sont encore partiellement camouflés. Mais ça ressemble pas mal à ça, là.
Ouais,
évidemment. De réalité.
C'est des photos espions de prototypes de ce qui sera le premier VUS tout électrique, là. Fait que c'est sûr que ça laisse un peu de marge pour un produit final. Mais ça circule, là. En fait, les prototypes circulent sur la route ces jours-ci en Europe. Et ça fait, évidemment, on le sait, l'affaire des espions photographes qui suivent de près l'industrie automobile. Il y en a quelques-uns encore qui
font
des nouvelles affaires.
Je te dirais qu'il y en a qui reçoivent quelques téléphones des compagnies pour dire si tu passais, mettons, par hasard sur telle route vers 3h jeudi, peut-être tu vas voir. Moi, j'ai une amie, je salue Brenda Pretty.
Ben oui, j'allais parler de Brenda, effectivement.
Brenda me disait qu'elle recevait, pas régulièrement, mais de temps en temps, des téléphones pour dire, ouais, elle est en Arizona, elle est aux États-Unis.
Ouais.
Puis elle dit, ben, on se pointait, puis effectivement, puis là, ben, c'est parce que les compagnies... c'est une façon sympathique de laisser couler un peu d'informations.
Ben, oui. Puis il y a le réseau routier, le système par hasard à chaque fois sur le bon véhicule au bon moment.
Oui,
c'est vraiment chanceux.
Surtout dans le désert de l'Arizona.
Tu
peux attendre longtemps sur le même coin de rue avant de voir un auto.
Dans le cas du Macan, là, les rumeurs étaient dans les airs depuis plusieurs années et ça a été confirmé l'année dernière que ça arriverait pour vrai. Fait qu'on attendait toujours un peu plus de détails. Là, ce qu'on sait, c'est que le Macan EV va être mis en vente à la fin 2023, comme c'est drôle, comme le Celestiq. Mais c'est quand même un an plus tard que prévu. début. Ça va être millésimé 2024. Ça va laisser le temps à Audi, là, qui est, on sait bien, là, c'est une marque sœur de Porsche au sein du groupe Volkswagen, là, de lancer donc son propre nouveau VUS électrique, qui est le Q6 e-tron.
Ouais.
C'est dur de dire e-tron à la radio, mais bon, je viens de le faire. Qui devrait donc apparaître à la fin de l'année 2022, donc à la fin de cette année-ci. Dans les deux cas, même plateforme, hein, qui anime les roues, là, qui se cache sous la carrosserie. C'est une plateforme appelée PPE pour Premium Platform Electric. Chez Volkswagen. Modulaire, vous aurez compris qu'elle a été conçue justement pour des applications dans le segment, dans des segments de luxe, là, comme les deux segments desservis par Audi et Porsche, qui sont pas ben, ben loin l'un de l'autre.
Effectivement.
Le Macan devrait hériter d'un système électrique de 800 volts, qui est sa grosse caractéristique, là, ce qui va lui permettre de récupérer entre 400 et 500 km d'autonomie en seulement 20 minutes quand on le branche à une borne rapide de 350 kW. C'est pas pire, c'est très bien. Mais imaginez-vous que ça pourrait aussi être possible. Il pourrait aussi être possible de récupérer 100 km d'autonomie en 3 minutes à partir d'une borne de 450 kW. Là, ce qui va rester à faire, ça va être de trouver la borne.
Bon, voilà, ça, c'est drôle parce que j'ai eu une conversation cette semaine.
C'est un genre de défi, tu sais.
J'étais cette semaine chez au groupe Gabriel sur Sainte-Catherine-Ouest où on ouvrait Hyundai électrifié.
OK.
En fait, qui est une boutique. Il n'y a rien à vendre, là. On vend pas d'auto. C'est Hyundai en collaboration avec le groupe Gabriel. En fait, Gabriel, c'est une partie du bâtiment qui abrite
un grand groupe,
Toyota.
Quand même,
Gabriel, c'est le plus grand groupe au Québec. Mm-hmm. Il y a, je pense, c'est 28 concessions. Mais lui, il est surtout basé à Montréal, mm-hmm. beaucoup sur l'île. Et il y a un concessionnaire Toyota dans l'ouest, sur Sainte-Catherine, à hauteur de la rue Saint-Marc, du Fort, là, dans ce coin-là, là, bas dans la ville.
Passé l'ouest du centre-ville de Montréal.
L'ouest du centre-ville. Et il a pris une partie de cet édifice-là pour faire Hyundai électrifié.
OK.
Et Don Romano me disait, Don Romano, c'est le président de Hyundai Canada, ouais. il dit, en ce moment, et j'ai trouvé sa réflexion intéressante, il dit, en ce moment, on a une infrastructure capable d'accepter à peu près 15 % de véhicules électriques, ce qu'on a en ce moment.
Ouais, ouais, ouais.
Il dit, là, on nous pousse dans le dos pour en faire 50. Les concessionnaires et les constructeurs hésitent parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ils disent, c'est pas dur, là. Ce que ça prendrait, c'est que chaque station-service est une borne de recharge.
Il y en a deux coins de rue, à tous les deux coins de rue.
Si on fait juste ça, mm-hmm. on passe de 15 à 50 % d'un coup sec. Puis il dit, il y a des programmes qui existent pour construire des. Puis il dit, lui, il dit, des niveaux 3, là. Arrêtez les niveaux 2, là.
Ouais.
Il n'y a plus personne qui veut des niveaux 2. Des niveaux 3. Puis il dit, faire beaucoup de charges publiques plus qu'on en a. Parce qu'il dit, une ville comme Montréal, où beaucoup de gens demeurent en condo, en appartement, qui ont nulle part pour charger, il faut trouver une façon économique de mettre des recharges. Il dit, nous, les constructeurs, on attend ça. Mais là, il dit, on est avec le problème de l'œuf ou la poule.
Ouais,
là, on veut produire, mais on sait que si on produit beaucoup, on ne trouvera pas preneur parce que le réseau n'est pas capable d'absorber. Alors là, je sais qu'il y a des pourparlers avec les gouvernements, on travaille là-dessus, mm-hmm. mais j'ai trouvé cette réflexion-là intéressante. Et ce que ça va faire, le Hyundai électrifié à Montréal, c'est que c'est un centre, appelons ça un centre d'information et d'enseignement.
Okay.
Il dit, je vois très bien, d'abord, c'est ouvert depuis le 12 juillet. Nous, on est là un peu pour l'inauguration officielle. Et il dit, on va avoir des groupes, des gens qui vont venir se renseigner sur les véhicules électriques. Il dit, on va avoir, par exemple, des jeunes à l'école qui vont venir prendre l'information. Il y a un Ioniq 5 et un Kona électrique.
C'est vrai. Ben
et
oui.
Il y a des gens, des employés qui vont être là et ça va uniquement servir à faire de l'éducation. Donc, je trouve ça intéressant.
Ouais.
C'est la seule place en Amérique du Nord où il y a ça et il n'y en aura pas d'autres. Il dit, nous, on voulait aller dans le marché qui est le plus favorable à la voiture électrique
mm-hmm.
et on a découvert qu'en Amérique du Nord, c'est Montréal.
Ben, c'est un peu logique.
Alors, je pense que c'est un honneur pour Montréal. 1955 Boulevard Sainte-Catherine-Ouest. C'est
voilà.
ouvert à tout le monde. Vous pouvez aller faire un tour si ça vous intéresse. La nouvelle est passée. Puis tiens, un mot en terminant les actualités. Là, on est en train de peut-être, entre guillemets, remettre l'avenir de la Bolt en question du côté de chez GM.
Déjà?
Oui, c'est la réaction que j'ai eue. Parce que là, on est en train chez GM de préparer plusieurs modèles. On parlait des piles Ultium tantôt. On le sait, là, tous les modèles électriques à venir du côté de chez GM vont être basés sur cette fameuse technologie.
Et la Bolt ne l'est pas.
Et la Bolt ne l'est pas. Et là, on va construire à la même usine de Orion du côté du Michigan où est la Bolt. On va construire la Equinox EV, on va construire le Blazer EV, ouais, puis on va construire le Silverado EV. Puis là, on se dit, il va-tu rester de la place pour un Bolt? GM a déjà annoncé qu'on allait construire une usine qui va être dédiée, une autre usine qui va être dédiée aux véhicules électriques. Mais on pense que d'ici à ce que ça se produise, qu'il y aura peut-être plus de place pour le Bolt. Je trouve ça dommage.
Ben oui, c'est malheureux. C'est le véhicule le plus abordable dans l'électrique, là.
Et c'est peut-être ça un peu qui est la cause. Mm-hmm. Rappelle-toi, on a enlevé la Volt littéralement en pleine gloire. Je veux dire, ce modèle-là n'avait pas de problème à vendre. Même les gens étaient extrêmement contents et satisfaits de ce véhicule-là. Et là, on risque de retirer la Bolt pour faire place à la technologie Ultium. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce qu'on enlève du marché le modèle qui est le plus abordable et le moins compliqué pour en mettre d'autres qui vont évidemment mettre plus d'argent dans les poches de GM.
Ben, on sait que le marché des VUS hein, et tout ça attire. Puis ben oui. Marché américain plus spécifiquement où ils s'en vendent plus.
Là, on ne prend pas en panique. C'est pas demain matin. On dit que pour l'année 2023 et probablement 2024, ça devrait encore être là, mais on prévoit pas de remplacer ces modèles-là par des équivalents d'une prochaine génération. Ils vont simplement disparaître.
À suivre.
Alors, petite pause, et après la pause, on va recevoir notre invité de la semaine, Gaston Morin.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors aujourd'hui, je fais ressortir mon côté campivalencien. Hein, on est de la région de Valleyfield et moi, depuis, mon Dieu, depuis, je touche toujours. Je sais pas, je me souviens pas de pas être allé aux régates. Les régates de Valleyfield, c'est l'événement de l'année dans la région de la Baie-Saint-François. C'est là, en fait, on parle des 82e régates de Valleyfield.
Quand même.
Et pour en parler avec nous, on a le responsable des communications et quelqu'un qui travaille là, je dirais pas depuis ses débuts, mais depuis déjà un bon bout de temps, Gaston Morin. Bonjour, Gaston.
Bonjour, Benoît. Bonjour.
Alors, Gaston, c'est ta combientième année au sein des régates à Valleyfield? Là?
À Valleyfield, c'est ma 35e année comme bénévole. Okay. Avant ça, j'avais été aux régates de Saint-Timothée pendant une dizaine d'années.
Et oui.
Et puis, dès que Saint-Timothée a tombé, j'ai repoussé mon bénévolat vers une autre destination.
Puis nous autres, on s'est connus aux régates de Saint-Timothée parce que moi, je suis de Saint-Timothée précisément. Ah. Alors, des régates qui étaient fort intéressantes, qui ont cochambré avec les régates de Valleyfield pendant plusieurs années. Mais Valleyfield, c'est spécial. Autant au niveau du circuit nord-américain des courses, dans le cœur de beaucoup de pilotes, gagner à Valleyfield, c'est un peu comme gagner à Monaco en Formule 1, là.
Oui, puis pour prendre une image nord-américaine, c'est le Daytona 500, c'est le Indy 500 dans le domaine de l'hydroplane, des courses d'hydroplane. Les participants viennent là, de partout.
Les gens viennent de la Californie, qui viennent de loin aux États-Unis.
Oui, Californie, plusieurs, le centre des États-Unis, la région de Michigan, Indiana, la côte Est. Et on a même deux Kiwis qui sont avec nous cette année, participants en classe Grand Prix qui viennent de la Nouvelle-Zélande, les frères Lupton, en classe Grand Prix à part de ça.
Dans la belle catégorie, là, dans celle évidemment qui attire beaucoup de spectateurs, là on a laissé quelques années passer, évidemment COVID oblige, on a eu les dernières régates à Valleyfield en 2019. Qu'est-ce qu'on ramène, Gaston, au programme cette année? Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait des courses, des skiffs, là, les bateaux à fond plat. On va également avoir certains véhicules d'époque, c'est-à-dire certaines régates d'époque qui vont aussi faire des courses de démonstration sur la Baie-Saint-François, là.
Tout à fait, dans les classes d'embarcation à fond plat, c'est pas vraiment la spécialité des hydroplanes, des courses d'hydroplanes au Canada, mais les participants nous viennent principalement des États-Unis et les compétitions sont encore très fortes dans ces catégorie-là, là-bas. Chez nous, au Canada, ça va être une des seules places avec Beauharnois. Là, il y en a eu, il va en avoir éventuellement, mais okay. Là, pour cette année, il n'y en avait pas eu. C'est des fonds plats, des embarcations qui sont portées peut-être plus à chavirer sais que les autres, mais en tout cas. Et dans les classes d'hydroplane, ben là, il y a les classes habituelles du circuit de la Hydroplane Racing League, la Ligue des régates d'hydroplane, les Grands Prix, les 350, les embarcations à plus petite cylindrée à 2500, il y a modifié et non modifié. Et puis, comme tu le disais, ben il y a des vintage. Il va y avoir à peu près 25 embarcations vintage, des embarcations d'autrefois que des gens ont mis leur fortune à réparer,
parce que
réaménager.
Ça coûte cher, ça, là. Moi, je me rappelle, et j'étais jeune, là. Moi, je compte des affaires quand j'avais 16-17 ans, que j'assistais aux régates et à Valleyfield et à Saint-Timothée. Une embarcation Lauderback, bon, parce qu'il faut expliquer aux gens, ceux qui connaissent pas trop les régates, les embarcations Lauderback, c'était le moteur devant et le pilote derrière. Et ça coûtait entre 100 et 125 000 quand j'avais comme une quinzaine d'années à fabriquer. Et là, il n'y avait pas de moteur là-dedans. Là. Alors, maintenant, c'est des cab-overs, c'est-à-dire que le moteur est derrière le pilote. C'est à peu près, en fait, c'est pas à peu près, c'est juste ça qu'on voit aujourd'hui. On a commencé tranquillement dans les années 80 à voir ces modèles-là. Et tranquillement, ça a pris le dessus. En fait, c'est que ces embarcations qui sont plus stables dans les virages, c'était beaucoup l'avantage de ces bolides-là. Ouais. Mais parle-nous un peu qui on doit surveiller en fin de semaine, qui revient. On sait que la compétition est extrêmement forte dans toutes les catégories, mais spécialement dans les 350, les moteurs à ce qu'on appelle les H, là, qui ont des identifications H sur le bateau. Il y avait une, je dirais qu'il y a, le championnat est tout pratiquement ouvert dans cette catégorie-là. Là.
Oui, c'est une catégorie qui a fait vraiment le plein de participants. On attend actuellement, j'ai compté tantôt, là, on a à peu près 19 d'inscrits dans cette classe-là seulement. Ça veut dire qu'il va y avoir des vagues de qualification à 4 ou 5 bateaux là, pour essayer de réduire les
Ouais, pour la finale, évidemment. Là. Oui.
Pour la finale, ramasser peut-être un 6 à 7 bateaux en finale. Il y a beaucoup de participants du Canada et du Québec là-dedans, je dirais à surveiller. Il y a Nicolas Rousse là,
le fils de Denis.
T'en plains ça, connais bien tes racines de Saint-Timothée.
Ah ben là tu parles de monde de chez nous, mais Denis qui a eu l'oiseau bleu pendant longtemps, qui a fait la pluie puis le beau temps dans la catégorie des ce qu'on appelait en fin de compte les 5 litres à l'époque. C'est des moteurs V8 5 litres non modifiés, ça c'est une des caractéristiques de cette catégorie-là. Et Nicolas, qui est le fils à Denis, là, fait belle figure depuis quelques années. Là.
Oui, très. Les autres participants à surveiller, je verrais Martin Rochon avec le RTX. Martin est un gars qui est très audacieux, alors il arrive souvent de perdre des contrôles dans certaines courses,
Et les bateaux, contrairement à les voitures, le pavé est très stable en auto, mais en bateau, le pavé est pas stable du tout. Puis les eaux peuvent jouer des tours. Puis là, heureusement, on attend une fin de semaine où il va faire beau et ça sera pas trop venteux, ce qui sont des bonnes conditions pour les courses d'hydroplane, là.
Oui, c'est pas si pire. Et avec un peu de vent, le seul problème qu'ils n'ont pas encore inventé dans le domaine des hydroplanes, c'est le frein ABS.
Alors... ouais, ça serait une bonne idée, ça.
Ça serait pas pire, ça.
On va laisser passer des spécialistes à cet effet.
Effectivement.
C'est une solution pour eux.
Non, en fait, c'est ça. C'est tout ce qui fait le spectaculaire des régates et qui rend ça, bon, à la fois dangereux, puis à la fois si spectaculaire. Et quand on arrive dans des embarcations gampies, là, on peut aller à 225 km/h sur l'eau. Là. Extrêmement impressionnant à voir. Là. Si vous avez jamais vu ça, là.
C'est effectivement un sport très captivant, puis les gens surveillent toujours les courses de très près. Puis les amateurs, souvent, ils sont, je dirais, dans un mauvais sens, mais ils sont récompensés parce qu'il en arrive des accidents, malheureusement. Par contre, les règles de sécurité ont très progressé avec les années. Maintenant, toutes les embarcations ont des cellules de sécurité renforcées. Un peu à l'image de ce qui se fait en F1, là. Alors, c'est avec ça que les conducteurs se protègent.
C'est la réalité.
Le bateau chavire, ouais. Il y a une sortie sur le plancher.
Ouais, il y a une trappe. Il y a une trappe.
Et là, le conducteur, il peut s'extraire du bateau qui est à l'envers.
Mais ça arrive, ça aussi. Ça a évité beaucoup d'accidents qui auraient pu être plus graves. Et si jamais vous allez aux régates, regardez les embarcations vintage et vous allez voir à quel point les pilotes à cette époque-là, t'as téméraire, t'as pratiquement la moitié du corps qui sort du bateau. Les protections sont loin d'être comme aujourd'hui. On conduisait littéralement le vent dans la face avec ces bateaux-là. Ça faisait aussi partie du spectacle.
J'ai entendu dans une présentation à un moment donné l'image la meilleure concernant notre conducteur du coin qui est décédé, Jules Lebeuf.
Ouais.
Et également les notes à propos de Robert Théoret. La personne qui parlait au micro a dit, ben dans ce temps-là, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, il se tenait après le volant.
Ah oui, oui, absolument.
C'est littéralement ça.
Oui, Jules de foot Lebeuf, on l'appelait de foot parce qu'on disait avec des bottes en cap d'acier. Parce qu'il dit, ça pèse plus fort sur le gaz quand on écrase. Il y avait du sang d'entrevue, il y avait une compagnie de transport, Jules Lebeuf, qui est une légende à Valleyfield. Là.
Ouais.
Il y a eu le boomerang, le zoomerang, mais lui avait des bateaux Lauderback. C'était le pied au fond, point. Ça passe ou ça casse. Et il y a eu des belles victoires, quelques accidents, dont une à Saint-Timothée qui a à peu près terminé sa carrière. Moi, j'étais aux estrades à décrire les régates à cette époque-là et tout le monde a retenu son souffle. Il a été éjecté du bateau puis il est tombé dans la queue d'eau du Nordique à peu près 4 pieds en arrière de la pale du bateau, de l'hélice, là.
Ouais,
ah non, là, il s'était fait une vrapeur, là, à cette époque-là, là, parce que ces gars-là se disent, bon, on tombe à l'eau, on recommence, on reprend le bateau, là. Mais moi, je l'avais vu sortir avec le bateau qu'il l'avait ramassé, là, haut, il emmena pas large. Mais cela dit, vous êtes assuré d'avoir un spectacle de première catégorie. Ça commence demain, là, vendredi, puis samedi, dimanche, là. OK.
Première compétition demain à midi. Une innovation par rapport au programme habituel. Généralement, les courses commencent à 10h30, mais pour vendredi, demain, on a essayé de lancer une petite fleur à nos travailleurs qui, souvent, le vendredi des régates, doivent se battre avec leur employeur pour avoir congé. Mais les employeurs sont réticents, c'est un peu normal.
Ils sont réticents, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de commerces à Valleyfield. C'est fermé vendredi, puis c'est fermé lundi. Parce qu'on fête aux régates. Moi, je dis ça. Et à l'époque où j'ai travaillé à la Goodyear, le lundi des régates, c'était fermé parce que de toute façon, il y a la moitié des employés qui n'étaient pas en état de rentrer au travail. Alors, mais c'est une fin de semaine où on s'amuse. Il va y avoir, on attend quoi, là? 130, 140 000 personnes à peu près,
dans ces
Gaston?
Environs, là, oui.
Alors,
une bonne partie des spectateurs viennent également le soir. Il n'y a pas rien que les régates. Il y a des spectacles en soirée.
Oui,
on commence ce soir avec
exactement.
Spectacle. Et, vendredi soir, samedi soir également.
Au Parc Sauvé, évidemment, là, dans l'enceinte du Parc Sauvé. Et pour ceux qui veulent y aller, les billets s'achètent quand on arrive. On a une admission générale si on veut y aller.
Il y en a, mais je vous dirais préférablement ceux qui seraient intéressés, l'achat en ligne, je vous le conseille sur le site Régate de Valleyfield. C'est certainement la meilleure façon de ne pas attendre. On met l'achat sur son cellulaire et puis on présente ça à l'arrivée plutôt réjoui.
Alors, on invite tout le monde à y aller. Un grand merci, Gaston Morin, de nous avoir consacré quelques minutes. Et moi, évidemment, j'irai. Je serai là en fin de semaine. J'ai un livre à terminer, mais je m'accorde une journée ou deux de vacances pour aller faire un tour aux Régates de Valleyfield. Dans ma vie, c'est bien important, ça. Merci beaucoup, Gaston.
Avec grand plaisir.
Ça marche. Bon week-end.
Bye, bye.
Alors, c'est à Gaston Morin, qui est directeur des communications pour les Régates de Valleyfield, qui est un événement,
le Super Bowl du sud du Québec.
Oui. C'est un événement fort dans l'été des activités là qu'on peut faire au Québec. Alors, j'invite les gens à aller faire un tour sur la baie Saint-François, centre-ville de Valleyfield. C'est pas compliqué d'aller là. Vous vous rendez au Club Nautique. prévoyez marcher un peu, par exemple, pour aller vous rendre, parce que il y a beaucoup de monde,
ouais.
Mais c'est un événement franchement fort intéressant. Alors nous, on va à la pause et on revient après avec nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, troisième partie de l'émission. Ah! En passant, même si on est l'été et même si on n'a pas d'émission sur le réseau Cogeco, vous nous avez toujours en balado.
Ben oui, abonnez-vous.
Donc, vous pouvez, abonnez-vous.
Abonnez-vous.
Abonnez-vous. Mm. Google, Spotify, Apple, C23, évidemment, sur le site du 98.5 où nous, on enregistre. Vous allez sur le site dans la section balado. On est là à chaque fois. Et vous abonnez, ben on vous envoie un petit avis quand l'émission arrive et boum, c'est fait. Alors,
exact.
C'est la façon la plus facile. Alain, t'as essayé le Venza, toi, cette semaine.
Oui, ben de façon très familiale, en fait, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de
Tu l'as roulé pour le vrai, là.
Oui, ouais. Ben, on le roule tout le temps, mais là, c'était plus que d'habitude. Toyota Canada qualifie le Venza de VUS sportif et hybride. Je suis allé voir sur leur site web. Puis,
sportif.
Oui, ben tu vois.
Ah oui, ah, d'accord.
J'ai
certaines réserves sur le mot sportif.
Ben là, écoute, je pense que dans le palmarès de l'annuel de l'automobile 2023, on le classe aussi comme un VUS.
Oui, tout à fait.
Ça fait qu'on n'a pas le choix. Mais on va se le dire, le Venza est surtout une familiale, à mon avis, qui a été un peu remodelée pour avoir une silhouette de VUS. On peut dire aussi même moins pépère qu'avant, parce que l'ancienne génération n'était pas super
Non, ben en fait, l'ancienne génération était une vraie familiale.
Exact.
Il n'y avait même pas
c'était
de
pas
doute.
C'est pas la même structure, là, c'est le Venza, mais... RAV4 remodelé. Puis tout le
temps. Ben c'est ça. Ouais. Là, on est parti d'un RAV4, donc c'est pour ça qu'on le met dans une catégorie de VUS, mais suspension plus souple. On le sait.
Ouais.
Et je vais te laisser aller, je veux pas faire.
Ben écoute.
Pas à moi de le décrire.
Moi, je suis payé pareil. Je veux dire, ça me dérange.
Ah, c'est ça.
Écoute, ça a l'air d'un gros cliché dit comme ça, là, mais il y a une espèce de déni des besoins de l'acheteur dans ce créneau-là, là, où le constructeur n'est pas gêné de mentir, pour le dire, là, de cette façon-là, sur la nature de ses produits, parce qu'il cible une clientèle qui se raconte un peu des histoires elle-même. C'est pas très rare dans l'industrie automobile. Le Mazda a essayé le même genre de concept avec la Mazda 5, là, en disant ceci n'est pas nécessairement une fourgonnette. C'est un véhicule pour le jeune papa cool dans le vent. Chrysler fait le même coup depuis des décennies avec certaines versions plus costaudes de ses différentes fourgonnettes, on va se le dire. Et là, bref, on a le Venza qui se la joue sportive, on sait pas pourquoi. C'est un véhicule, évidemment, qui était dans le passé le plus près d'une version station wagon de la Camry et qui prend cette année un peu plus d'une forme distincte, c'est ce qu'on vient de dire.
Exact.
Écoute, pour continuer à situer le véhicule dans le marché, disons que c'est l'équivalent plus urbain ou chic du RAV4 là, qui a, de ces années et ces temps-ci, plus l'air d'un camion prêt pour aller jouer dans le bois. Même s'il reste tout à fait raisonnablement civilisé, n'est-ce pas? Cela dit, là, un prix détail pour le Venza qui démarre à 41 000 $, ce n'est pas pour tout le monde nécessairement, surtout si on considère que sa version la plus séduisante est le modèle XLE qui coûte 47 000 balles. Il y a aussi une Venza limitée à 50 000 $ qui offre pas grand-chose de plus à part un écran tactile de 12 pouces. Dans tous les cas, là, le prix plus élevé risque quand même d'être très bien amorti par la réduction de la facture d'essence que va provoquer l'achat de ce modèle-là. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, ce véhicule-là. Sous le capot, on a le quasi légendaire 4 cylindres de 2,5 litres de Toyota là, qui est hybride.
Oui, qui roule depuis la nuit des temps. Là.
Qui
est éprouvé et qui est fiable.
Fait la job, effectivement. Ah, oui. Et on le trouve évidemment partout pour ces raisons-là. Et on le trouve sous le capot de ce véhicule-là. Il permet, si vous faites beaucoup d'autoroutes, de conserver une consommation moyenne très, très près des 6 litres au 100 km. Une semaine et un voyage à New York plus tard, dans mon cas, ce qui était les conditions de mon essai. Ma consommation durant cette semaine-là s'établissait à 6,1 litres au 100 km. Ce qui, dans mon cas, est comme vraiment exceptionnel parce que apparemment je consomme plus d'essence que la moyenne des ours quand je conduis. Je pense que je conduis plus proche du 119 km/h que du 100 et c'est ce qui explique souvent la situation. Mais dans ce cas-ci, conduite normale, sans se casser la tête, sans changer les façons de faire, et avec trois enfants à l'arrière, et avec le bagage pour cinq personnes. Moi, en tout cas, ça m'a complètement... ça fait changer mon avis sur ce véhicule-là, parce que j'étais pas nécessairement très positif en partant.
Ah oui, là, t'as réalisé que c'est un vrai véhicule familial.
Et là, tu te dis, ben c'est ça, tu cherches... beaucoup de gens veulent pas une fourgonnette, mais veulent un véhicule familial. Bon, coûte cher, coûte pas cher, consomme pas, puis ça, c'est la combinaison gagnante. Et en plus, détail qui n'est pas banal, le Venza a quatre roues motrices en tout temps.
Oui.
C'est pas un rouage mécanique sophistiqué, là. Il y a beaucoup d'électronique, mais quand même, ça fait ce que ça a besoin de faire, quatre saisons.
Ben, tu sais, en fait, ce qu'on veut, c'est que ça puisse être sécuritaire par toute température.
Ça sort du bon neige.
Les gens qui vont aller jouer dans le bois avec ça n'existent pas.
Exact.
Il y a personne qui va aller prendre un chemin forestier avec une Venza. On veut juste que s'il neige, qu'on soit pas pris, puis s'il y a une pluie diluvienne, qu'on glissera pas nécessairement dans la première coupe qu'on va trouver.
Exact.
Puis à ce chapitre-là, ça fait la job.
Ça fait la job. Évidemment, faut pas s'attendre à des performances miraculeuses, là. Le groupe hybride, on le sait, là, il jumelait une boîte CVT électronique qui aplanit, et là, je suis très poli, aplanit
oui,
beaucoup
la puissance. Je te trouve effectivement assez poli.
Mais bon, disons, OK, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui se débrouille assez bien, là, sur la route.
Ouais, ouais.
Comportement axé, évidemment, sur le confort. Écoute, il absorbe le nid de poule. Moi, ça m'a surpris, ça. Très smooth. Puis on chiale contre Montréal puis le Québec. Mais les nids de poule à New York, là, les amis, là.
Il y en a des solides aussi.
C'est vraiment des nids de poule de format américain, là. C'est genre le camion est complètement avalé par le trou dans la route. Et le Venza s'en tire vraiment très, très bien. Super bonne insonorisation. C'est doux, c'est calme à l'intérieur. Pas besoin de mettre le volume de la radio à 47 pour entendre de quoi. Vraiment impressionnant. Puis la visibilité est très bonne en plus. Ça, c'est un détail. Des fois, on néglige, mais tu sais, véhicule plus avec une caisse plus élevée, des choses comme ça. On voit très bien.
T'es légèrement surélevé. Tu sais, t'es pas trop haut dans la mesure où c'est pas compliqué d'embarquer à bord.
Non, exact.
Mais t'as une position de conduite privilégiée par rapport à la moyenne du trafic.
Rassurant à conduire. C'est comme ça que je le définis. Évidemment, rien n'est parfait dans le monde et le Venza a bien sûr ses défauts. A commencé par une capacité de remorquage inconnue, sinon inexistante. Là. Il n'est pas recommandé pour remorquer, en fait. C'est un peu ironique, même si en principe, il serait capable de le faire. Un RAV4 peut le faire aussi, mais pour ceux qui veulent vraiment toujours tirer une roulotte ou n'importe quoi, c'est mieux d'aller voir ailleurs. C'est aussi un, parce que là, on le met dans la catégorie des VUS intermédiaires, et dans cette catégorie-là, c'est un des plus petits. Bon, si vous voulez voir le verre à moitié plein, ça fait un VUS compact plutôt spacieux. Donc, c'est à vous de voir comment vous voyez ça.
Oui, parce que c'est assez drôle, étant donné que c'est basé sur un RAV4, que le RAV4 est d'un compact, puis nous, on le met des intermédiaires. Logiquement, il devrait être d'un compact. Fait que dites-vous que c'est un grand compact ou un petit intermédiaire.
Ben, vous voyez, c'est ça. Vous voyez ça comme vous voulez. Il fait soleil ou il fait nuageux. Il fait un peu les deux, mais bon. Dans l'ensemble, le Venza, pour moi, en tout cas, c'était une surprise de l'année, sans être le véhicule de l'année, là. Mais c'est quand même un véhicule que je recommande chaudement à quiconque cherche quelque chose de familial, consomme pas beaucoup, a cette espèce de format très apprécié des gens, là, VUS, tout kit. Vous pouvez laisser faire le mot sportif dans l'appellation.
Oui, je pense que la définition de sportif ne s'applique pas vraiment.
Exact.
Mais ça fait le travail.
Exactement.
C'est comme ça qu'il faut le voir. Bon, ben merci Alain.
Ça fait plaisir.
Très bon résumé. Moi, j'ai été un petit peu ailleurs cette semaine. J'ai essayé le Venza la semaine avant toi. Mm-hmm. Puis je suis assez d'accord sur ce que tu as dit. Il faut pas avoir d'attente au niveau de la conduite avec ça.
Ouais.
Mais pour tout le reste, vous allez être très satisfait. Moi, j'étais dans quelque chose qu'on achète pour la conduite. Subaru WRX, en fait, c'est la branche sportive d'un Impreza.
Un favori des amateurs de conduite.
Un des favoris des amateurs de conduite. Là, évidemment, cette année, on a perdu la version STI.
Mm-hmm.
La version STI ne revient pas. Moi, j'ai parlé avec certains gens de Subaru Canada il y a quelques mois, puis on disait, bon, ce qu'on a dit aux gens de Subaru Canada du côté du Japon, c'est que on devrait, ou en fait, si on gardait le STI, c'est un modèle qui est là depuis 2015, qui a besoin d'être refait, on s'entend, et le refaire au complet pour le temps qui reste à ce véhicule-là sur le marché, on a décidé que ça valait pas la peine du côté de Subaru, puis on a retiré le modèle. Tout simplement. Le WRX, lui, est encore là.
Es-tu là, manuel automatique?
Il est manuel automatique.
On a les deux,
et,
OK.
Et honnêtement, je dis pas ça souvent, prenez bien note de ce que je vais vous dire.
Enregistrez, les amis.
Mais le CVT dans la WRX ne va pas mal.
Ah oui?
Parce que
c'est gros ce que tu viens de dire là.
On dit sport et CVT que ça se marie pas. C'est vrai dans 98% des cas.
Mais Subaru et la CVT, c'est un beau mariage.
En fait, il y a une CVT intelligente du côté de chez Subaru. On peut simuler des rapports. Et la boîte manuelle n'a jamais été la meilleure boîte au monde chez Subaru. C'est une boîte qui est un peu vieillotte. En fait, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que quand j'ai pris le véhicule cette semaine, moi, j'étais de ceux qui étaient de la première vague du premier lancement de la WRX en 2002. Ça fait 20 ans.
À l'époque où cette auto-là était LED, d'ailleurs, bon sens. Là. Oui, oui.
Et à chaque fois que je reprends un WRX, je recule de 20 ans. J'ai l'impression que je rembarque dans le même véhicule. Bon, oui, les lignes ont changé.
On a perdu l'effet de coupe monstrueux qu'il y avait avant aussi.
Ça, c'était avec le 2,5 litres. Là, on a un 2 litres maintenant qui s'est amélioré. Mais on a toujours l'espèce de même son caractéristique des moteurs à plat.
Ouais.
La même boîte manuelle qui est pas vraiment précise, mais qui fait le travail. Le côté saccadé, quand on part avec un Subaru, là, on part pas en douce, on part... Puis avant que tu passes la deuxième, ça sautille un peu. Bon, mais en quelque part, ça fait un peu comme partie du charme de l'auto aussi. Évidemment, quatre roues motrices extrêmement efficaces. Il y a 271 chevaux, je pense, dans le modèle, qui est tout à fait correct. Mm-hmm. Ce qu'on a beaucoup amélioré avec le modèle que j'ai essayé cette semaine, c'est l'écran multifonction. Là, on a mis un écran multifonction de 11,6 pouces, un peu à la verticale, là, et non pas à l'horizontale.
Pas l'affaire de la frosité de la DAC, toujours?
Non. Il est intégré, il est vraiment dans le tableau. Okay. Honnêtement, j'ai été... écoute, le graphique est très clair, le graphisme est très clair. Et ça, c'est facile à comprendre. Là. J'ai pris 10 minutes. On peut, comme là, on a bon audio boom, puis là on a AM, FM, Sirius. On sélectionne, puis la sélection apparaît là. Il y a pas de sous-menu. T'as le menu et ça arrive devant toi. Ça, c'est la façon de faire. Parce que souvent, t'as le menu, là, t'arrives dans la radio. Puis là, t'as un autre sous-menu.
Ouais, il cache plein d'affaires ailleurs.
Ah, écoute, c'est parce que quand tu conduis, là, j'ai pas le temps de faire une recherche exhaustive, là. Je pèse, puis il faut qu'il soit là.
C'est comme jouer de la musique sur un piano, ben oui, t'as pas le temps.
Oui, alors ça, on a compris ça. Évidemment, la conduite, c'est toujours une conduite qui est engageante. C'est un modèle où il y a des sièges sportifs, où on a un quatre roues motrices qui est capable d'en prendre. C'est des véhicules qui ont été champions du monde de rallye, faut pas l'oublier. Donc, on peut amener ça, on peut même... moi, je connais des gens qui vont de temps en temps dans des routes de gravel. On n'ira pas faire du hors-route avec ça. Il n'y a pas la garde au sol pour faire ça. Mais c'est des moteurs qui sont compétents. Par contre, à plus de 3000 tours minute. Sous la barre des 3000 tours, là, on dirait que le turbo, il dort encore. Là, 3000, boum! Puis à partir de 5000, là, ça marche. Là, de 5000. Fait qu'idéalement, je sais pas trop comment vous dire ça. Trouvez-vous une petite route puis roulez le moteur au fond. mais c'est vraiment à partir de 5000 tours que ce moteur-là se réveille. Ça reste un véhicule intéressant, plus intéressant que l'Impreza de base.
Ah oui, ben c'est pas la même personnalité du tout.
C'est pas la même. En fait, c'est la personnalité sportive que l'Impreza a pas. Mm-hmm. Parce qu'à la base, c'est à peu près le même châssis, c'est le même système quatre roues motrices. Évidemment, il est adapté, il est plus prompt, il est plus nerveux dans la WRX. Est-ce qu'il va avoir une STI? Ah, la question. En fait, ce qu'on m'a dit avec des points d'interrogation et des peut-être
des guillemets,
c'est qu'on va développer une prochaine génération où il y aura une partie d'électrification dans le moteur. Est-ce qu'on parle d'un hybride branchable? Je pense pas qu'on irait dans le tout électrique pour un modèle comme ça, mais il pourrait y avoir peut-être un 4 cylindres 2 litres turbo comme on a là, mais avec un moteur électrique qui ajouterait 100, 125, 150 chevaux, où on aurait plus de puissance. Alors, c'est à voir, mais on n'a pas abandonné l'idée d'une version STI. D'ailleurs, les versions STI vont commencer dans l'électrique du côté de chez Subaru.
Ah oui.
Fait que il y a fort à parier... parce que c'est quand même le modèle probablement le plus légendaire du côté de Subaru, la STI. Fait que je pense qu'on l'abandonne, mais pour un temps, qu'on va nous ramener quelque chose.
Si je peux faire une Taycan.
Bon, exactement.
Faire une STI
alors,
électrique,
donc, ça pourrait être intéressant. Mais en gros, si vous avez un petit côté nostalgique, que vous aimez les performances sportives, puis que ça vous dérange pas de vous faire brasser un petit peu, le WRX, c'est tout à fait le genre de modèle que vous pourriez.
C'est une voiture apprivoisée.
C'est une voiture à apprivoiser, mais que j'ai bien aimée. Alors, ça, c'est pas mal, en résumé, ce que j'ai eu derrière le volant. Là, j'ai, parlant de se faire brasser, je roule un 4Runner TRD Pro cette semaine. Alors non, ça aussi, si vous pensez qu'il y a des
ça, c'est spécialisé,
des sensations là. Nostalgiques dans le WRX, on est dans le vintage avec le TRD Pro. Parce que ça, c'est le même châssis, je pense, depuis 2007 ou une affaire de même. Ça fait une éternité.
Oui, à l'époque où les BMW, c'était les 4x4.
C'est un vrai camion. Oui, c'est un châssis à échelle. Fait que ça, je vais avoir ça pour vous autres la semaine prochaine. Toi, t'as quoi qui s'en vient, là?
Oh, faut que je regarde mon catalogue. Je suis en mode campeur, moi, ces jours-ci.
Ah, je vois. Et là, je vais, la semaine prochaine, je m'en vais faire l'essai du... En fait, c'est pas vrai. on ne l'essayera pas, on s'en va le voir. Le Chevrolet Blazer... Blazer EV.
Oh, il a l'air bien, lui.
On s'en va à Los Angeles ça. Donc, la semaine prochaine, à l'émission, à moins qu'il y ait un embargo. J'ai pas lu, je vais lire mes choses comme il faut. Mais s'il n'y a pas d'embargo, on va s'en parler la semaine prochaine à l'émission.
J'ai plein de questions là-dessus.
Alors, merci à Claude Hébert, qui était derrière la console avec nous. Alain, merci. Nous autres, on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Soyez prudents et bonne semaine.
Salut.
C'est 23.